écoutez, bon réveil à tous. Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La rentrée universitaire déjà perturbée par l'épidémie de Covid-19. Une dizaine de foyers sont apparus, de la faculté de médecine de Rennes à l'université de Strasbourg, de Sciences Po Reims à l'école centrale de Lyon. Enseignement à distance ou bien en présentiel, mais avec masque et distanciation physique. Toute l'organisation est à repenser et les craintes se font déjà sentir chez les enseignants, notamment, vous l'entendrez.
Des tours de vis sanitaires en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône, deux départements rouges sur la carte du Covid.
Un pas plus de 10 personnes rassemblées dans les parcs, sur les plages ou les quais, les fêtes étudiantes et les soirées dansantes sont interdites dans les bars.
Le réchauffement climatique, enjeu de campagne aux États-Unis, ça finira par se refroidir, a déclaré Donald Trump, interrogé sur les incendies qui ravagent la côte ouest, aggravés par une sécheresse chronique.
À la une encore, Israël scelle son entente aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn à la Maison-Blanche, ce qui bouscule les équilibres au Moyen-Orient. Et puis le Brexit avec le texte controversé de Boris Johnson qui franchit un premier obstacle au Parlement à Londres.
Et dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, je sais que vous vous posiez la question, existe-t-il des neurones de l'instinct parlemental ? Eh bien, on posera la question à Catherine Dulac, elle est neurobiologiste et elle vient d'obtenir le Breakthrough Prize pour ses découvertes sur l'instinct parental.
Elle appelle déjà chaque étudiant à la responsabilité. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, tient ce matin sa conférence de rentrée alors que la faculté de médecine de Rennes 1 suspend, elle, ses cours en présentiel pour une semaine à cause du Covid-19 et de 43 cas confirmés chez des étudiants. Les contaminations ont notamment eu lieu lors de soirées privées. Pour cette même raison, plus d'une dizaine d'établissements du supérieur sont confrontés à une circulation très active du virus. C'est ce qu'a expliqué hier Frédérique Vidal. Le syndicat étudiant UNEF cite lui Sciences Po Reims, l'école des mines de Nancy, l'école centrale de Lyon, Sciences Po Lille, l'université catholique de Lille, les universités de Nice, de Poitiers et de Bordeaux. Quand les cours sont assurés, masque obligatoire, une place sur deux occupée sur les bancs de la fac. Un casse-tête pour Franziska Heimberger, directrice adjointe de l'UFR études anglophones à Paris-Sorbonne.
On a besoin de reprendre contact avec les étudiants. On n'a pas vraiment ni les salles ni les enseignants pour tout dédoubler. Donc du coup, on est bien obligé de les accueillir comme on peut. Et donc le pari, c'est de commencer au moins en présentiel. On verra comment la situation sanitaire évolue. Il y a des craintes. Il y a des collègues qui sont inquiets parce que nous enseignons dans des salles souvent très pleines, dont l'aération n'est pas toujours évidente. Donc l'université prévoit d'aérer les salles, donc on espère que tout sera en place. Il y a des étudiants qui ont des craintes, il y a des étudiants qui habitent par exemple chez leurs grands-parents fragiles et qui craignent de prendre les transports. Nous essayons de trouver des solutions par les dispenses d'assiduité ou par d'autres solutions, mais nous ne sommes matériellement pas équipés pour proposer à la fois du distanciel, du présentiel et le tout avec les mêmes personnes qui d'habitude enseignent ce que nous savons faire le mieux. Donc c'est compliqué de gérer tous les cas particuliers. Évidemment, on est tous ravis de retrouver les étudiants, on n'a pas enseigné en personne, nous, depuis mars. Donc on est très contents, les collègues qui ont repris cette semaine pour l'enseignement de préparation des concours sont contents de retrouver leurs étudiants, ils nous le disent. Mais ils sont inquiets, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a des cas contacts, des gens qui sont obligés de s'arrêter, de passer en quarantaine, comment on va gérer les absences des uns et des autres. C'est très compliqué et ça pèse sur la santé physique et mentale des collègues parce que la charge finit par être lourde.
Franziska Heimberger, directrice adjointe de l'UFR études anglophones à Paris-Sorbonne. Elle répondait à Anne-Laure Chouin qui signe le reportage de la rédaction ce matin à 7h25 intitulé « Rentrée universitaire, le grand flou ». Les fêtes d'étudiants interdites à Bordeaux et Marseille, cela fait partie des nouvelles mesures prises hier par les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône où les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter. Les précisions de Wafia Kenich.
Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les parcs de Bordeaux. Les soirées dansantes dans les bars, restaurants ou salles des fêtes sont désormais prohibées. On passe de 5000 à 1000 personnes pour les rassemblements dans les lieux publics. Les événements comme les brocantes ou les fêtes foraines ne sont plus autorisés. Du côté des entreprises, retour à la case télétravail dès que cela est possible. Les sorties scolaires sont-elles supprimées ? Le mot reconfinement n'a jamais été prononcé. L'État préfère parler d'un plan d'action territorialisé, une stratégie pour casser la circulation du virus. Tous les signaux sont au rouge au CHU de Bordeaux. C'est son directeur Yann Bubien qui le dit. 100 patients hospitalisés pour Covid, 24 en réanimation, 57 clusters identifiés, dont 15 en EHPAD. Des chiffres qui augmente de jour en jour. Stopper l'épidémie, cela passe aussi par la prévention. Il faut, annonce la préfecture, renforcer l'offre de tests. Sauf que les lieux de tests sont saturés, ainsi que les laboratoires d'analyse. Alors il va falloir faire des choix. Malades, cas suspects, cas à risque et personnel de santé seront donc prioritaires. La préfète a également annoncé l'ouverture de nouveaux lieux de dépistage la semaine prochaine. Enfin, en EHPAD, les autorités préconisent l'isolement de tous les résidents malades et la limitation des visites à 2 par semaine et par résident.
À Marseille également, je le disais, les soirées étudiantes sont interdites, tout comme les soirées dansantes, les rassemblements de plus de 10 personnes aussi sur les plages ou dans les jardins publics. Pas de consommation d'alcool debout dans les bars ou sur la voie publique. La vente d'alcool à emporter est d'ailleurs interdite après 20h. Et puis les journées du patrimoine ou la foire de Marseille ont été annulées hier. Au total, la France a enregistré plus de 6000 nouveaux cas de Covid-19 sur 24 heures. 34 personnes par ailleurs sont mortes à l'hôpital hier. Le nombre de malade entrant en réanimation a encore augmenté avec 448 nouveaux patients admis ces 7 derniers jours, soit 21 de plus en 24 heures. Et puis l'état d'urgence sanitaire devrait être déclaré en Guadeloupe, c'est ce qu'a estimé de son côté le député LREM Olivier Servat, alors que le préfet doit annoncer des mesures complémentaires réclamées par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Aux États-Unis, un juge fédéral juge anticonstitutionnel les mesures de confinement en Pennsylvanie.
Des mesures attaquées en justice par plusieurs élus républicains et des petits entrepreneurs, dont les propriétaires de salons de coiffure, qui estimaient que la viabilité de leurs affaires était compromise par ce confinement. Dans son jugement rendu public donc hier, un juge fédéral nommé par Donald Trump l'an dernier leur a donné raison. Il a notamment jugé arbitraire les distinctions faites entre activité économique jugée essentielle ou non essentielle. La Pennsylvanie, qui a voté pour Trump à une courte majorité en 2016, est considérée comme l'un des États pouvant rebasculer dans le camp démocrate lors des élections de novembre prochain. Et dans la course à la présidentielle, Donald Trump reprend l'un de ses thèmes préférés, le réchauffement climatique. Fake news. Je ne pense pas que la science sache réellement, a déclaré le climato-sceptique Donald Trump, alors que l'Ouest américain continue de se battre contre des incendies gigantesques. Les dizaines de brasiers qui dévastent la côte d'Ouest depuis des jours ont déjà fait au moins 35 morts depuis le début de l'été, 25 rien que cette semaine dans les 3 États de Washington, de l'Oregon et de Californie. Le président, qui avait déjà supprimé toute référence au changement climatique sur les sites du gouvernement une minute seulement après son investiture, Donald Trump, qui avait également retiré les accords des accords de Paris, les États-Unis, a répété hier qu'à ses yeux, ces feux étaient surtout liés au mauvais entretien des terres forestières et pas au changement climatique, Grégory Phillips.
Dans cette ancienne base aérienne de McClellan Park, au nord de Sacramento, Donald Trump échange avec le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, qui poliment le remercie pour l'aide fédérale apportée ces dernières semaines. Mais le gouverneur insiste, le changement climatique est bien réel et il aggrave les incendies. Puis c'est le responsable local de l'Agence de protection des ressources naturelles qui prend la parole. Et Wade Crawford, c'est son nom, dit ceci au président. Notre État a connu des températures records ces dernières semaines, 54 degrés Celsius dans la vallée de la mort. Si on ignore la science et qu'on garde la tête dans le sable, on n'arrivera pas à protéger la Californie. Donald Trump rétorque, ok, mais ça va se refroidir, vous verrez. Le fonctionnaire californien répond, j'espère que la science vous donnera raison là-dessus. Je ne crois pas que la science sache réellement, conclut Trump. Au même moment, à 4500 km de là, sur la côte Est, Joe Biden prononce une allocution consacrée à ces feux et au changement climatique. Donald Trump est un pyromane du climat, dit le candidat démocrate. Et si on lui donne 4 ans de plus à la Maison-Blanche, alors comment s'étonner que l'Amérique s'embrase davantage?
Et à cette semaine de la présidentielle américaine, Donald Trump souhaite se présenter en faiseur de paix en parrainant la signature aujourd'hui des accords de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ces deux pays du Golfe sont les 3e et 4e pays arabes à faire des relations diplomatiques avec Israël après l'Égypte et la Jordanie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ardemment souhaité cette signature, mais il reste encore des incertitudes. La correspondance à Jérusalem de Frédéric Mettezo.
Déjà plus de 14 ans au pouvoir, mais Benjamin Netanyahou se cherche encore un héritage. Ses prédécesseurs, Begin et Rabin, avaient conclu les accords de paix avec l'Égypte, l'OLP et la Jordanie. Barak et Sharon se sont retirés du Liban et de Gaza. Pour Bibi Netanyahou, rien de tel. La normalisation avec les Émirats et Bahreïn est donc une étape historique dans les relations israélo-arabes. Elle offre des perspectives économiques à Israël, cyber, high-tech, tourisme, finance, recherche médicale, culture. Elle renforce son axe stratégique contre l'Iran et contre la Turquie. Et enfin, elle isole les Palestiniens, furieux que leur combat pour un État ne soit plus la priorité pour le reste du monde arabe. Mais cette normalisation ne suit pas un processus normal. Les accords signés cet après-midi n'ont pas été débattus au Parlement israélien et Benjamin Netanyahou, qui a fait le voyage avec épouse et grands-enfants, n'a pas invité ses ministres centristes de la Défense et des Affaires étrangères. Quelles sont les contreparties du côté israélien ? Netanyahou a-t-il renoncé à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie comme le disent les Émirats ? Va-t-il geler la colonisation comme le prétend son opposition de gauche ? A-t-il accepté que les Émirats acquièrent les meilleurs avions de chasse américain, comme l'affirme la presse israélienne. Netanyahou est toujours resté évasif, pas sûr aujourd'hui que cela intéresse les Israéliens en priorité. Ils sont désormais concentrés sur le reconfinement du pays prévu vendredi après-midi.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Le texte controversé de Boris Johnson sur le Brexit franchit un premier obstacle au Parlement à Londres.
What this bill is simply seeking to do, this is the crucial thing, is to protect this country. By creating a legal safety net.
Le Premier ministre britannique veut préserver l'intégrité du Royaume-Uni en créant un filet de sécurité légal, quitte à soulever la polémique avec cette possibilité de violer les règles internationales en ne respectant pas les accords déjà signés. Boris Johnson, qui n'a aucun désir d'utiliser ce filet de sécurité judiciaire, une garantie donc sur ce projet de loi, notamment sur l'Irlande du Nord, de revenir sur l'accord douanier conclu avec Bruxelles. Ce projet de loi de Boris Johnson a été approuvé hier par 340 votes pour et contre 263 voix contre, précisément. Peut-être un signe de vie dans les nuages de Vénus. Des chercheurs ont établi la présence apparente dans les couches nuageuses de Vénus d'un gaz qui, sur Terre, est associé à la vie. Une découverte qualifiée par le chef de la NASA d'événement le plus important dans la recherche de vie extraterrestre. Mais attention, il pourrait tout de même falloir atténuer ces espoirs de vie. Camille Magnard y revient dans sa revue de presse internationale après le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 15 septembre encore chaud, mais plus nuageux qu'hier, avec de possibles averses sur la façade ouest du pays. Les températures sont comprises ce matin entre 12 et 23 degrés du nord au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 22 et 36 degrés du nord au sud.